12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui et comme tous les mercredis à deux films, nous amenant respectivement en Iran et aux États-Unis, nous faisant découvrir les dérives absurdes mais bien réelles de ces deux territoires. D'abord le film Chronique de Téhéran d'Ali Asghari et Alireza Khatami, puis The Sweet East de Sean Price Williams.
Deux films et deux critiques, nous en débattons ce midi avec vous Antoine Léris, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, auteur, rédacteur en chef du magazine trimestriel Respect et avec vous Muriel Judet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à distance avec nous exceptionnellement ce midi et critique de cinéma au Monde. Soyez les bienvenus dans les Midis de Culture.
Et on commence avec les chroniques de Téhéran d'Ali Asghari et d'Alireza Khatami.
خب اسم گل پسر چیه؟ چی انتخاب کردین؟
دیوید.
باید بدونی وقتی ساکن ایرانی اسم بچه‌تون نمیتونی بذاری دیوید.
چرا؟
اشاعه فرهنگ بیگانه.
اصلا برفرض محال میگم و من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟
کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟
Il s'appelle David, Selena, Aram, Sadaf, Faezeh, Farbod, Siamak, Ali et Mehri. Ils sont iraniens et de la naissance à la mort, ils sont confrontés à l'administration liberticide de leur pays. Du prénom de l'enfant à l'entretien d'embauche, l'obtention d'un permis de conduire à la recherche d'un chien, les deux réalisateurs, Ali Asghari et Alireza Khatami, ont décidé de filmer 9 scénettes de la vie quotidienne. 9 plans fixes qui se succèdent comme un film à sketch, sauf qu'il n'y a rien de comique. Quoique, dans ce film réaliste mais pas documentaire, l'absurde politique est telle qu'il y a de quoi faire rire. Le tour de force résidant dans cette critique acerbe du régime totalitaire iranien qui n'est pourtant pas tombé sous le coup de la censure. Qu'en avez-vous pensé, Antoine Léris ?
J'ai trouvé très intéressant d'abord que ce film côtoie The Sweet East parce qu'ils sont complètement différents dans la forme. Il y en a un qui est un grand voyage qu'on verra tout à l'heure et il y en a un qui est absolument statique puisque ce sont 9 plans fixes les uns après les autres, mais ils ont tous les deux en commun l'absurde. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que je trouve qu'il pose absolument la bonne question. C'est cette question de l'arbitraire et la question de la vie dans un système ou dans un pays concentrationnaire. Mmh. Puisqu'il est vraiment question d'enfermement tout au long du film. Et c'est vrai qu'on pense notamment à ce concept de Primo Levi, de zone grise, entre les capos qui font partie des victimes mais qui deviennent bourreaux, et les victimes elles-mêmes, et les rapports entre les deux. Et ce que je trouve génial, c'est que le film le raconte à travers effectivement différents destins, depuis une petite fille qui danse et à qui on va imposer de mettre un voile, à un ouvrier à qui on demande s'il connaît bien les 7 piliers de l'islam et de pouvoir réciter une prière par cœur. Et on voit tous qu'ils sont enfermés dans une idéologie et enfermés dans un rapport à quelqu'un qui détient un pouvoir et qui l'exerce de manière arbitraire. Ça, j'ai trouvé ça absolument splendide. Ensuite, la question est la bonne, mais est-ce qu'elle est traitée de la bonne manière? Ça, c'est l'autre question que laisse en suspens le film, parce que, en fait, au premier sketch, on se dit c'est édifiant, au deuxième, on se dit ça allait encore, et puis le troisième, le quatrième, le cinquième, et ça devient un peu répétitif, et je trouve que ça perd en puissance. Moi, il y a quelque chose que les deux réalisateurs disent dans le dossier de presse. Ils disent, on avait envie de faire un film choc, ça c'est la réalité. Ils disaient, on n'avait pas envie, on se dit que le temps n'est plus de se raconter des histoires autour du feu, mais de faire parler le feu directement. Feu, oui. Et c'est ça qui manque un tout petit peu justement dans ce film-là. Et je pense que c'est un peu à cause de ce dispositif. C'est la flamme, c'est la puissance justement de la narration qui va nous manquer puisqu'on est coupé dès le moment où on pourrait ressentir des sentiments très puissants avec les personnages.
Muriel Joudet, qu'en avez-vous pensé de ces chroniques de Téhéran ?
Oui, je suis assez d'accord avec Antoine. Il y a un côté un peu anesthésiant dans la forme. Alors peut-être pour préciser sur le dispositif, parce qu'on est en droit de se demander devant ce film comment les autorités ont laissé faire. Mmh. Et en fait, c'est une ruse surtout d'Alireza Khatami qui avait un projet mort-né, qui avait été refusé par les autorités iraniennes et qui avait décidé donc de faire une suite de courts-métrages parce que les courts-métrages ne sont pas soumis à la censure et à une autorisation préalable. Donc ça, c'est déjà très très malin dans la forme, c'est de coller des courts-métrages et on voit que voilà la quelque part le geste artistique trouve toujours arrive toujours à s'accomplir d'une manière ou d'une autre et donc c'est toujours filmé en plan moyen Il n'y a pas de coupe, c'est vraiment des plans séquences. On voit, alors peut-être qu'il faut aussi préciser qu'à chaque fois, les bourreaux, en tout cas, les tenants de l'État totalitaire iranien sont toujours hors champ et qui s'adressent donc à la personne qui est à un Iranien venu demander quelque chose à une administration. Moi, ce qui me gêne, c'est justement, c'est que, alors, film choc, moi, personnellement, quand je suis sortie du film, j'ai eu un effet un peu de à quoi bon, c'est-à-dire c'est tellement monolithique, c'est tellement le dispositif en fait se mord la queue selon moi, c'est-à-dire que ce que nous raconte le premier court-métrage, le premier instantané, le dernier nous raconte à peu près la même chose, et ça fait ce quelque chose d'un peu anesthésiant sur la forme, c'est-à-dire que on ne ressent plus grand-chose. Au début on est saisi et progressivement l'effet choc finit par s'amenuir, par se dissoudre progressivement. Et du coup, la question, c'est est-ce que, alors les histoires au coin du feu, est-ce que c'est pas ça qu'on demandait? C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression un peu, peut-être que je reviendrai tout à l'heure, que le cinéma iranien est un peu enfermé dans une forme que moi j'appellerais le réalisme administratif, quoi. C'est-à-dire que certains cinéastes, mais notamment Asghar Farhadi qui a un peu lancé cette mode, ils sont un peu pris comme ça dans une forme qui consiste à filmer les administrations iraniennes et le côté cascaillant de ces administrations. Et ça fait un peu trop longtemps pour moi que certains cinéastes iraniens font ce geste-là.
Et au contraire, est-ce qu'on pourrait pas dire, je vais vous donner la parole, Antoine Léris, que cette forme dont vous parlez, qui peut être un peu répétitive, un petit peu, qui se mord la queue ou qui nous anesthésie. Alors moi, je partage pas du tout votre point de vue, parce qu'au contraire, dès le début, je me suis dit, oh mon Dieu, hyper ennuyeux, ça va être comme ça pendant 9 sketchs en plus, 8 sketchs en plus. Et moi, au contraire, c'est l'accumulation de chaque sketch qui m'a à la fois terrifiée, qui m'a en fait fait rire. En fait, ça, l'effet presque a été augmenté pour moi. On peut pas aussi le voir de cette manière-là, Antoine Léris?
Oui, je pense qu'on peut le voir. Le film est vraiment pas de toute façon inintéressant, et parce que le dispositif, il y a des choses qui l'empêchent, mais il y a des choses qui le permet aussi. Et il permet effectivement d'avoir une mosaïque de ce qu'est la vie dans la société iranienne, et en particulier à Téhéran aujourd'hui. Même si on se doute que chacune des situations est choisie pour être édifiante, et que je pense que c'est cet effet-là qui est cherché et qui fait perdre un peu en puissance à ce
c'est
film-là.
C'est trop artificiel, ça que vous voulez dire?
C'est un peu trop démonstratif, on va dire. C'est-à-dire que là, on a le sentiment, à la fin de ces 9 sketchs, d'avoir un panorama complet, avec depuis la petite enfance jusqu'au personnage âgé, de ce que peut être le quotidien à Téhéran. Et c'est une impression qui est nécessairement fausse, puisque la réalité du quotidien se joue dans autre chose que ce rapport avec les administrations. Ensuite, moi, ce que je trouve dommage, et Muriel en parlait, c'est de ne jamais voir, d'avoir une sorte d'administration invisible, puisqu'effectivement, on a en hors-champ les personnes qui donnent les ordres, qui dirigent ces entretiens avec les personnes qu'on voit à l'écran.
C'est vraiment des interrogatoires, presque.
Et ce qui fait que, justement, on perd toute la puissance de ce rapport qui est justement ce dont je parlais tout à l'heure de Primo Levi, qui est une zone grise entre celui qui va appliquer la sanction, celui qui va dominer et celui qui est dominé. Justement, il y a un rapport qui est très complexe, et Primo Levi le raconte très très bien. C'est évidemment dans un autre contexte concentrationnaire, mais je trouve que c'est assez pertinent. Et on voit que ces rapports sont très complexes. Et là, au lieu du gris, on a d'un côté le blanc qu'on a devant nos yeux et le noir qu'on suppose en hors-champ. Et je pense que ça aussi, c'est une dimension qui est un peu dommage dans ce cinéma-là. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, ça permet de dénoncer. Et peut-être, effectivement, un sketch après l'autre, on se dit que la dénonciation permet d'aller dans toutes les... Voilà, exactement, d'aller dans tous les... Dans tout le spectre de ce que peut être le quotidien d'une vie d'un Iranien ou d'une Iranienne. Malgré tout, il y a justement un effet démonstratif un peu trop imposant.
Alors, Muriel, je voulais vous parler tout à l'heure du cinéma iranien qui développerait une veine réaliste administrative. C'est une expression de vous, Muriel?
Oui, c'est de moi.
Vous allez inventer, c'est comme la nouvelle vague en fait. Vous allez inventer une nouvelle expression.
Voilà, j'invente des courants. On l'a aussi en France, c'est-à-dire cette question de l'administration qui pèse de tout son poids sur les individus. Il y a des films français aussi qui sont... Moi, elle me dérange parce que j'ai l'impression qu'elle s'embarrasse plus vraiment de fiction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un... Il n'y a pas d'imaginaire pour moi qui est ouvert. Et puis surtout, c'est quelque chose qui est toujours binaire. On sait toujours ce qui va se passer. C'est-à-dire que les représentants d'une administration donnée vont écraser, intimider... gêner la liberté d'un personnage. Enfin, c'est toujours, en fait, c'est toujours la même histoire. Et c'est vrai que, alors moi, je me suis aussi dit devant le film, c'est-à-dire que c'est un peu l'Iran expliqué aux Occidentaux, c'est-à-dire quand on fait ce film, pour qui, à qui s'adresse-t-il ? Évidemment, il va pas sortir en Iran. On sait qu'il va faire les festivals. Internationaux et surtout occidentaux, donc il était à, il me semble, à Un Certain Regard.
Exactement.
À Cannes.
Oui.
Et je me suis quand même, en fait je me suis dit, mais en fait ce film, ce qui ne fait, en fait ce qui se passe en Iran actuellement, c'est pire que ce que montre le film. C'est-à-dire que le vrai choc, c'est dans les images qui fuient de ce qui se passait pendant les manifestations où des femmes enlevaient leur voile, c'est les morts, donc il y a aussi l'anesthésie ne vient pas le dispositif, il vient aussi du fait que elle vient aussi du fait que la réalité est beaucoup plus monstrueuse, beaucoup plus pire, et que à ce titre, et moi j'ai toujours ce sentiment devant plein de films, je me dis mais ce qu'il aurait fallu là, le choc, ça aurait été le documentaire en fait. Donc voilà, c'est ça qui me gêne, et c'est quel imaginaire ouvre le film, c'est-à-dire que voilà, j'ai vu le film, je me suis dit, mais le court-métrage, le film à sketch, ce genre de format-là, moi, je trouve qu'il y a une gestion du temps qui est un peu, vous savez, c'est un peu comme c'est comme des bonbons, c'est-à-dire, c'est pour ça que le temps passe vite, parce qu'en fait, il y a un sketch qui se termine, il y en a un deuxième, c'est comme un peu un paquet de bonbons. Et j'ai un peu du mal avec ça, parce que je trouve qu'un film ne marque l'esprit que s'il gère le temps d'une manière ou d'une autre, s'il le malaxe, s'il en fait quelque chose sur la longue durée. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec les films à sketch, même les
très bons italiens, même très bons films italiens.
Ensuite, même ceux du cinéma italien, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une gestion du temps qui est pas marquante, qui est pas.
Pour défendre le film et les deux réalisateurs, parce que je pense qu'il est vraiment pas inintéressant, et c'est vrai qu'on a donné toutes ses limites, mais il a aussi une force dans les numéros d'acteurs d'abord qu'on voit devant nous, dans la manière dont se déroulent les entretiens.
Tournait en fait un long métrage, on dit qu'il venait juste tourner un court métrage, c'est-à-dire que c'est pas seulement une feinte des réalisateurs vis-à-vis de l'administration, même vis-à-vis des acteurs qu'ils ne voulaient pas pénaliser s'ils étaient interrogés sur le projet auquel ils participaient. Donc c'est quand même intéressant.
Ouais, et sur cette forme en plus, les deux réalisateurs le mettent en avant dans un des sketchs, le sketch du scénariste qui arrive donc pour avoir son autorisation de tourner son scénario, et en face évidemment le bureau de vérification du scénario lui dit il est bien ton scénario, mais pourquoi est-ce qu'il doit se venger du père ? Pourquoi est-ce que le père doit mourir ? Et puis, en fait, pourquoi est-ce qu'il doit faire ci ? Et on voit le scénariste arracher les pages les unes après les autres. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez drôle de voir ce scénariste qui arrache les pages pour dire, finalement, en fait, on n'en arrive plus qu'à raconter l'anecdotique, ce que met en scène le film tout du long. Et donc, ça, je trouve ça assez intéressant comme mise en abîme du fait que, puisqu'on ne peut plus raconter les histoires, autant raconter des petites anecdotes, des petits clichés qui sont édifiants et qui sont intéressants, effectivement.
Et qui peuvent passer,
qui sont tournés,
surtout,
vers les Occidentaux, mais qui racontent tout de même quelque chose. Et d'ailleurs, la fin du film n'est pas inintéressante, puisqu'on se rend compte qu'en fait, le film sème des petits cailloux pour nous montrer le chemin vers la révolte et qu'il a quand même une portée politique.
Il faut parler de ce dernier tableau qui est effectivement tranche avec le reste, puisque là c'est un vieil homme anonyme, il n'a donc pas de nom et on le voit juste fermer les yeux. Il est
très vieux. C'est vous qui racontez la fin alors.
Oui, je raconte la fin. Et donc
j'aurais pas osé moi, mais.
Mais non, mais j'ai dit de la naissance à la mort à la mort de cet individu, et on voit Téhéran s'écrouler. Donc en gros, il y a quand même ce truc d'un destin, il y a une thèse qui est démontrée jusqu'au bout et qui se veut un peu plus métaphorique parce que sans parole. Bon, j'ai dévoilé la fin, bon, c'est pas non plus un grand spoil. Muriel, ça vous a pas convaincu non plus ce dernier tableau ?
Non, mais là où c'est vrai que ce que dit Antoine est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le film n'est pas tant un film qu'un document de la manière dont on peut faire un film, dont on peut raconter l'Iran aujourd'hui en passant entre les filets de la censure iranienne. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, qui est en soi déjà un document hyper précieux pour quand on se penchera sur de formes comme ça, c'est. Quelle forme peut exister ? Alors, il y a par exemple aussi les films de Jafar Pahlavi, pendant longtemps, n'était interdit de faire des films, et donc qui prenait sa caméra comme ça dans des taxis, qui faisait un peu du Alain Cavalier, qui racontait sa vie, qui faisait des home movies. Et à ce titre-là, le film est en soi finalement plus tant du côté de la fiction que du document sur qu'est-ce qui est encore possible de faire en rusant avec la censure. Donc à ce titre, c'est vrai que c'est un geste qui est passionnant, ne serait-ce que pour ça, quoi.
مینو این بچه من بود مینو جون مامان من اینجا قربونت برم شما که میدونی سگ نجسه، ممنوعه، میگیرن.
من تا سگمو نگیرم از اینجا نمیرم.
Les chroniques de Téhéran, d'Ali Asghari et d'Ali Reza Khatami, c'est en salle aujourd'hui.
12h, 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna-Savoy, Nicolas Herbeau.
Nous vous avions promis un autre voyage. Voici The Sweet East de Sean Price Williams.
That's just the beginning.
It's a crazy place. Did you know that, yeah?
I don't have your number.
Oh, I don't have a cell phone.
Liliane est une jeune lycéenne américaine. Lors d'un voyage scolaire dans l'Est des États-Unis, elle fugue. Commence alors le conte de Liliane, qui tient autant d'Alice au Pays des Merveilles que du mythe d'Orphée, croisant sur son chemin de Washington à New York autant de grâce que de crasse. Suprémaciste, antifasciste, complotiste, wokiste ou islamiste, mais ici forestier, pour son premier long métrage qu'il présente comme une comédie d'aventure fantaisiste, Sean Price Williams ne trahit pas ses origines dans le ciné indé. C'est foutraque comme un rêve, c'est bricolé comme un film artisanal, ça se moque des Américains tout en étant fasciné par l'Amérique. Qu'en avez-vous pensé, Muriel Joudet ?
Bah moi, j'étais très heureuse de retrouver le cinéma indépendant américain qui, en fait, ça faisait un moment qu'on n'avait pas d'objet, de films passionnants qui nous venaient de ce continent-là, qui, pour des raisons un peu obscures, s'est éteint. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que il y a un moment on avait plein de films, ceux des frères Safdi, ceux d'Alex Ross Perry, souvent on peut quand même constater la santé du cinéma américain en regardant ce qui se passe du côté du cinéma indépendant. Et Sean Price Williams vient de ce cinéma-là, c'est-à-dire qu'il a été chef opérateur de grands noms du cinéma indépendant, donc les frères Safdi, Alex Ross Perry, mais aussi Ronald Bronstein, qui ont vraiment fait des films, qui en fait ont filmé les marges, qui se sont intéressés à filmer les marges qui n'existent plus vraiment dans le cinéma américain. Et c'est ce qu'essaye de refaire ce film-là, hein, le premier qu'il fait, c'est-à-dire que pendant 20 ans, il a éclairé les films des autres, et là, il s'attelle à filmer, une Amérique qui ne se résume plus qu'à ses marges, en fait. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus finalement que des communautés qui se sont toutes radicalisées. Ça, c'est l'idée du film, c'est, on va un peu comme le Chronique de Téhéran, c'est un portrait en coupe d'un pays, mais qui fait le choix de ne pas ériger un seul héros, mais de faire traverser une héroïne, une jeune fille, de la faire traverser un pays qui est complètement, qui est devenu complètement fou. Et donc ça passe par le conte picaresque. Et ce que je trouve très beau dans le film, c'est que il joue aussi avec la figure de la jeune fille, hein, de la jeune fille blanche qui est un peu un objet de fantasme, un objet que tout le monde veut posséder dans le film. Tout le monde veut lui mettre la main dessus, tout le monde veut coucher avec elle. Et ce que je trouve très malin de la part de Sean Price Williams, c'est à ce titre, c'est que à chaque fois qu'elle entre dans un milieu, donc les antifascistes, les suprémacistes blancs, les deux réalisateurs de gauche, tendance woke entre guillemets, à chaque fois que quelqu'un veut lui mettre la main dessus et veut la posséder, elle s'arrache au groupe et elle va dans un autre groupe. Et elle se laisse comme ça, c'est une sorte de Lolita que personne n'arrive à attraper. Donc il y a vraiment ces deux, pour moi il y a deux tendances dans le film qui sont parfaitement liées. Hein, c'est cette figure-là de la jeune fille blanche pure qui tente tout le monde, et en même temps le portrait d'un pays qu'on ne peut plus faire conventionnellement, qu'on ne peut plus, qu'on est obligé de traverser tellement maintenant ce pays est déchiré, divisé en communautés qui se regardent en chien de faïence, et ça donne pour moi le quelque chose qu'on attendait, c'est-à-dire le renouveau d'un certain cinéma indépendant qui avait complètement disparu. Et voilà, j'aurais quelques réserves tout à l'heure, mais je laisse parler
mon collègue. Antoine.
Moi, je suis d'accord avec Muriel. Je trouve ce film détestable, mais j'adore le détester. Je le trouve quelque part détestable parce qu'il est sale, il y a un grain, le son est mauvais. Ça fait partie de l'idée de ce cinéma-là. Mais effectivement, j'adore le détester parce que j'adore qu'il existe encore la possibilité d'une parole radicale aux États-Unis. Ça faisait quand même des années qu'on n'avait pas vu des films comme ça émerger. Et ça, pour le cinéma, pour l'histoire du cinéma, pour le cinéma américain en particulier, je trouve ça réjouissant. Ce que je trouve très intéressant dans ce que disait Muriel, c'est le côté ces communautés radicalisées et à quel point les frontières sont érigées entre ces communautés. Elles ne se parlent plus, elles ne se regardent plus, elles ne se connaissent plus. Et il faut effectivement ce personnage un peu extraordinaire. Alors, il parle effectivement du mythe d'Orphée. On peut y voir une Alice au Pays des Merveilles. Elle passe dans un premier tunnel.
Oui, c'est ça surtout qui est vendu.
Il faut en tout cas un personnage extraordinaire, un personnage de conte, un personnage surnaturel pour pouvoir passer d'une à l'autre et nous les montrer. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il nous montre une Amérique horrible, horrifiante, effrayante. Et pour autant, il arrive à nous faire rire de ça sans partir d'un point de vue qui jugerait moralement ce que proposent justement ces différentes communautés. Et ça, je trouve ça aussi assez pertinent. Ensuite, moi, ce que j'aime, c'est le côté... en fait, on remonte le fil halluciné du vote Trump, quoi. Depuis la visite au Capitole, ça commence quand même par le serment d'allégeance au drapeau américain qu'on entend comme ça réciter. Et puis, l'interruption d'une MAGA, donc Make America Great Again, qui vient avec son flingue pour rejouer le Pizzagate, c'est-à-dire l'idée que dans les sous-sols de certains lieux, il y aurait des enfants qui seraient violés, enfin, quelque chose de très complotiste, pour ensuite remonter toutes ces communautés qui ont fait la possibilité de l'arrivée du premier mandat Trump et qui feront peut-être la possibilité de l'arrivée du deuxième mandat Trump d'ici quelques mois.
Mais vous dites tous les deux, Antoine et Muriel, que toutes ces populations radicalisées ou marginalisées, on les voyait plus dans le cinéma indépendant américain, mais c'est pas le cas. Par exemple, dans les séries, on voit beaucoup ce genre de figures-là. Pourquoi ce film-là parvient à les montrer autrement, parvient à renouveler quelque chose, voire en fait à redonner vie, comme vous l'avez dit, Muriel, au cinéma indépendant?
Vous avez répondu, c'est-à-dire que la série que moi je connais bien, voilà, moins que le cinéma, a pris en charge plein de choses qu'aujourd'hui le cinéma ne prend plus en charge. Moi, de ce que j'observe, c'est qu'il y a une sorte de gentrification du cinéma, des formes et des sujets. Alors autant la question des minorités, elle est totalement prise en charge par le cinéma le plus mainstream, hein, c'est-à-dire même les Marvel, mais la question de la marginalité, elle, je la trouve vraiment inexistante. Alors peut-être dans des... Il y a peut-être des gens qui m'écoutent en me disant « mais si, il y a des films », mais peut-être qu'ils n'arrivent pas jusqu'à nous, ces films-là. Mais pour moi, il y a comme ça... Et le film n'est pas exemple de cette gentrification-là. C'est-à-dire que dans sa manière, c'est là où pour moi, il y a une toute petite limite, c'est dans sa manière de jouer au film indépendant, peut-être qu'il surjoue cette forme-là dans une sorte de mélancolie à ne pas réussir à faire des films innocent sur les marges et on sent que voilà, il a une culture cinématographique, il a les bons goûts, la bonne musique, le bon compositeur, tout est un peu en place, le bon grain d'image. C'est ce qu'on pourrait reprocher au film, c'est-à-dire de surjouer un tout petit peu sa sauvagerie, mais néanmoins pour moi il y a on sent une envie très forte de réactiver quelque chose qui est complètement disparu. Et de toute façon, la question de la marge, en devant le film, je me disais mais de toute façon voilà, maintenant il n'y a plus que des marges, donc de fait la question de la marginalité par rapport à ce qui serait un centre, elle n'existe plus puisqu'il n'y a plus vraiment de centre aux États-Unis et que tout est un peu éclaté en poches comme ça de collectifs, de minorités, de communautés. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'existe plus de marge et très certainement que la série maintenant raconte les histoires. Démarche.
Mais alors, vous avez dit, Muriel, justement, qu'il y avait un côté peut-être un tout petit peu gentrifié aussi. Enfin, que c'était la petite limite pour vous de ce film-là, The Sweet East. J'ajoute quand même que, comme acteur, il y a Jacob Elordi, qui est quand même le beau gosse aux États-Unis, qui vient aussi d'une série qui s'appelle Euphoria, qui a cartonné. Il y a aussi Ayo Edebiri, qui interprète là le personnage de Molly, donc la réalisatrice un peu woke dans le film, qui a été aussi primée, en fait, aux Golden Globes pour son rôle dans une série qui s'appelle The Bear, dont on a parlé ici. Donc il y a quand même aussi, tout est coché en termes de cases un peu cool quand même dans ce film. Ouais.
Bien sûr, mais moi je pense que la grande différence, justement, vous demandiez comment est-ce qu'il traite différemment ce sujet-là. Il le fait par le grotesque et par la comédie. C'est-à-dire que chacune des séries ou des films qui parlent des marges, qui parlent de l'extrême droite, qui parlent du mouvement tradwife, c'est-à-dire le retour de la femme au foyer, qui parlent du woke, en général, on dénonce les dangers et de manière parfois appuyée, parfois grandiloquente. Alors que lui, il prend le parti de nous faire faire un voyage, une promenade étrange, hallucinante, hallucinée, avec des personnages surnaturels, et pour montrer le grotesque de tout ça. Et ensuite, charge à nous de reconstruire. C'est peut-être moi la limite que je pourrais trouver au film, mais c'est aussi le talent que je lui pense, c'est-à-dire de nous laisser une part d'interprétation, une part de reconstruction. Le film met tout au même niveau, et ensuite, c'est à nous de faire le travail.
C'est un pur relativisme.
Un petit peu, mais au moins, il y a quelque chose qui nous permet d'être libre dans notre interprétation de ce qu'on voit et de pas être absolument dans le fait de devoir reconnaître le danger de telle communauté ou de telle communauté ou de telle autre communauté. Et ça, je trouve que cette liberté, mais qui est propre aussi au cinéma, avec une série, on est enfermé avec beaucoup d'épisodes, beaucoup d'heures de visionnage. Le cinéma, on est dans une salle et ensuite on en sort, on retrouve sa liberté de penser immédiatement ce qu'on vient de voir. Et donc je trouve qu'en ça, le cinéma a un rôle qui est un peu différent et que ce réalisateur-là nous permet d'envisager ces communautés-là de manière un peu différente.
Muriel Joudé, juste en quelques secondes, pour conclure, c'est intéressant comme Chronique de Téhéran et ce film-là en fait se répondent dans des genres extrêmement différents. Est-ce que vous trouvez là que la critique des États-Unis elle marche bien, elle est bien huilée justement à cause de ce relativisme-là?
Non, c'est pas. Alors moi, c'est pas tant la critique. Enfin, en fait, il passe par la critique via le fait de se plonger dans une communauté, dans un imaginaire, et surtout de faire le lien entre plein de communautés qui ne se parlent plus, qui ne se regardent plus. Donc moi, je pense que par rapport à Chronique de Téhéran, je trouve que cette forme qui mute sans cesse, qui vraiment se réinvente à intervalles réguliers, c'est une manière justement de dire, en fait, il y a un imaginaire qui est enfoui aujourd'hui en Amérique et il faut l'ouvrir. Et c'est peut-être que le projet à Chronique Téhéran, c'est vraiment cette ouverture d'un imaginaire qui lui manque un peu. Et là, pour moi, c'est vraiment cette idée de repoétiser, si vous voulez, une Amérique qu'on ne voit plus dans
merci,
le cinéma magnifique.
Merci beaucoup, Muriel Joudé. Merci à vous, Antoine Léris. The Sweet East de Sean Price-Williams, c'est en salle aujourd'hui. Tous les débats et toutes les références sont sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.